On poursuit le cours qui traite de l'homme et sa personnalité, connaissance de soi et amélioration de soi. On a vu hier que la Torah est susceptible de nous transformer. C'est-à-dire que étudier la Torah et l'accomplir, ce n'est pas quelque chose qui est au-delà, à côté de l'être humain, mais c'est une science qui vient le transformer, le métamorphoser. Donc, seconde introduction qui nous est nécessaire, c'est un sujet qui concerne la neshama, l'âme de l'être humain. Pensez tous que l'homme est constitué de corps et d'âme. La Gemara dit dans Brachot, Hané Hamisha Barchen Afshi Keneged Mi Amran David. On a cinq psaumes de Tehilim qui nous disent Barchen Afshi. Ça parle de la neshama. L'Amran Ela Keneged Hakadosh Baruch Hu. Ou Kneged Aneshama. Il y a cinq éléments, cinq domaines dans lesquels il y a un rapport étroit entre l'âme et entre Hashem. Makash Baruchu, Male Kola Olam, Afaneshama, Melea et Kola Gouf. Comme Hashem remplit le monde entier, pareil aussi l'Aneshama, elle remplit le corps entier. Makash Baruchu, Zanet Kola Olam Kulo, Afaneshama, Zanet Kola Gouf. De la même façon que Hashem nourrit le monde entier. La neshama, l'âme, nourrit le corps. Évidemment, pas une nourriture, plutôt du sens spirituel et divin. Hachem, il voit sans être vu. La neshama aussi, elle voit sans être vue. Comme Hachem, il est pur, l'âme aussi est pure. Et cinquième élément, Afaneshama Yoshevet Bechadre Chadarim. Hashem Ro'e Venonir'e Afaneshama Ro'a Venanir'et. C'est-à-dire que Hashem, on le voit et il nous voit sans être vu par aussi la Neshama. Alors ça nous paraît a priori, pas le fait que la Neshama n'est pas vue, c'est comme un manque, une déficience. On va expliquer que c'est le contraire. Alors d'abord, on va avoir une petite histoire. L'Agma Ibn Chagiga. Rabbi et Rabbi Chiya marchaient en chemin. Quand ils sont arrivés dans la ville, ils ont demandé, est-ce qu'il y a un Talmid Chacham dans cette ville? On leur a dit, il y en a oui, en effet, un Talmid Chacham, mais il est aveugle, il ne voit pas. Alors Rabbi Chiya a dit à Rabbi, par Rabbi c'était le président, le Nassi, il a dit, pas, toi, ce n'est pas la peine de venir, parce que bon, c'est quelqu'un qui est handicapé, qui est aveugle, alors j'irai tout seul. Toi, tu es président, c'est pas de ton honneur d'aller chez lui. Il a dit, non, non, je viens avec toi. Un Talmid Chacham, je viens avec toi. Ils sont allés le voir, on discutait du vrai Torah. Lorsqu'ils ont fini, le Chacham en question leur a dit, que Shem, Sheikbaltem, Panim Anir'im, Venanir'im, Tiskulagbil, Panim Aro'im, Venam Nir'im. Comme pas vous avez eu cette finesse, cette perspicacité de vouloir rendre visite à quelqu'un qui est vu mais qui ne voit pas, eh bien vous aurez aussi le mérite de voir, de recevoir, pas celui qui voit et qui n'est pas vu, c'est-à-dire Hachem. Quand vous m'avez respecté à moi, eh bien vous aurez, n'est-ce pas, vous pourrez avoir bénéficié de la présence d'Hachem parmi vous. Et là, Rabbi a dit à Rabbi Chiya, tu vois, tu as failli me faire perdre une telle bracha extraordinaire. Si je t'avais écouté, j'aurais manqué une telle bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour comprendre, n'est-ce pas, l'admiration, la fascination de Rabbi en face de telle bracha, ce n'est pas uniquement un jeu de mots. Le sens est le suivant. En général, n'est-ce pas, on a l'impression que quelqu'un qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui est très handicapé, qui est retiré du monde, qui a un problème, c'est vrai aussi. Mais on oublie le côté positif de cette déficience, de ce manque. En effet, le contact que nous avons avec le monde entier, c'est le contact de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, etc. Et ce qui se passe, c'est que la vision nous donne une façon de se mettre en contact avec le monde, avec la société. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien que c'est un avantage extraordinaire, mais c'est aussi une barrière, une limite. Pourquoi? Parce que dès que tu vois, tu te fies à ce que tu vois. Tu vois quelqu'un, alors automatiquement tu remarques, Est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est moche? Etc. Des côtés, des éléments qui sont extérieurs, plus ou moins, à sa personnalité et surtout extérieurs à son âme, à sa neshama. Et bien souvent, mais pas bien souvent, c'est comme si on se braque, on a un a priori, un préjugé, selon la première impression qu'on a en voyant quelqu'un, qui nous est donnée par son physique, par son apparence extérieure, et on oublie, n'est-ce pas, le côté spirituel, le côté moral, intellectuel, qui se cache au-delà de son corps, de son physique. Et cela, n'est-ce pas, tout cela est présenté par la vision. Alors que la vision, bah, c'est un élément, un avantage extraordinaire, mais c'est aussi une limite, une barrière, parce que ça va te braquer à comprendre, à voir, à ressentir les personnes, les éléments, les choses, selon la première apparence, et très souvent, on va rester braqué sur cette première impression. C'est pour plus aiguiser cette notion des enfants. Des enfants qui ont des parents qui sont sourds. Un enfant qui a des parents qui sont sourds, cet enfant, il apprend rapidement, après quelques semaines, quelques mois, même s'il ne sait pas l'expliquer, mais il le ressent. Et automatiquement, cet enfant, s'il tombe et il se fait mal, eh bien, quand il se met à pleurer, il ne va pas crier et mettre un son. Parce qu'il a déjà appris inconsciemment que ses parents ne réagissent pas du tout lorsqu'il se met à pleurer, à crier, à hurler. Comment est-ce qu'il va exprimer son mal? Uniquement, n'est-ce pas, sa façon, l'expression de son visage va exprimer qu'il est en mauvaise position, qu'il a eu mal. Autre exemple, un enfant qui a des parents qui sont aveugles, eh bien cet enfant, quand il va se faire mal, il va uniquement crier et pleurer, mais son visage ne va montrer aucune expression de malaise, de mal. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a appris inconsciemment que ses parents ne réagissent pas quand il fait des grimaces puisqu'ils sont aveugles. C'est-à-dire qu'en effet, n'est-ce pas, le contact que tu as avec les hommes, la société, le monde, se fait, n'est-ce pas, par les cinq organes des sens, et rapidement, tu apprends quelle personne réagit à quel organe. Et tu te conduis, n'est-ce pas, de l'appareil. Tu agis et tu réagis selon cela. Alors, pour revenir à ce qu'on a dit auparavant, c'est que, en général, notre rapport, notre contact le plus important avec le monde, c'est la vision. Alors, comme dit, c'est extraordinaire, mais il y a un problème, parce que souvent, ça nous limite, ça nous braque, on va se fier uniquement à l'apparence extérieure. C'est ce que leur a dit ce Talmid Chacham. C'est qu'un homme qui est aveugle, c'est vrai, n'est-ce pas, il a un problème, c'est vrai. Mais cependant, il a aussi un avantage. Pourquoi? Parce qu'il a l'avantage de ne pas être limité par l'apparence extérieure de la chose. Et automatiquement, lorsqu'il va se mettre en contact avec les éléments, avec le monde, avec les hommes, avec la société, non pas par la vision, mais par l'ouïe, par le toucher, etc., eh bien, bon, il est vrai pas que c'est aussi une apparence extérieure, pas ce qu'on ressent, ce qu'on touche, etc., mais c'est différent que la vision. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un homme aveugle, s'il agit correctement, il a une plus grande facilité d'arriver au côté intérieur des choses. Il peut arriver plus facilement à ce qu'on appelle la pnimiut, la personnalité intérieure de l'être humain. C'est-à-dire qu'un homme aveugle peut plus ressentir la neshama, son âme personnelle et l'âme d'autrui. Lorsqu'il va parler avec quelqu'un, il ne va pas le voir, mais il va plutôt écouter, n'est-ce pas, au travers de ses paroles. Qu'est-ce qu'il est en train de transmettre? Quel message, pas moral, intellectuel, spirituel, il est en train de transmettre? C'est pourquoi un homme aveugle, il a cet avantage. Ce qu'a dit le Hacham, vous, n'est-ce pas, vous avez eu cette finesse de ne pas mépriser un homme aveugle, mais au contraire de l'honorer et de le respecter, parce que vous êtes bien conscient que être aveugle, même si c'est un problème, mais ça a aussi un grand avantage. Et au contraire, pas des fois, on peut plus arriver au côté pnimi de l'être humain, de la neshama, pas en évitant la vision. C'est pourquoi, entre parenthèses, on voit aussi que des fois des tzadikim, bien qu'ils avaient, oui, cette faculté de voir, bien souvent, ils fermaient les yeux. ils ouvraient les yeux uniquement lorsque c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que tant que ce n'est pas nécessaire, la vision, c'est un problème. Parce que tu vois et tu te fies uniquement à l'apparence extérieure. Alors il leur a dit, ce que vous qui avez eu cette finesse, cette perspicacité, cette intelligence de vouloir chercher le côté pnimi intérieur de l'être humain, eh bien vous aurez aussi le mérite de mériter la présence divine parmi vous. Pourquoi? Comme on a dit auparavant, c'est que Hachem, c'est comme un Neshama. La Neshama, Hachem, il voit sans être vu.
C'est le contraire.
Hachem, il voit sans être vu. La Neshama, elle voit sans être vue. C'est le contraire, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut s'approcher d'Hachem? Comment est-ce qu'on peut s'approcher de la Neshama? En effet, il y a un problème. C'est qu'on ne la voit pas. Elle nous voit la Neshama, mais on ne la voit pas. Hachem nous voit, mais on ne le voit pas. Comment s'approcher d'Hachem et de la Neshama si on comprend bien pas, qu'en effet, on ne peut pas se fier uniquement à ce qu'on voit. Lorsqu'on sait apprécier un homme qui est aveugle, c'est-à-dire qu'on ne se fie pas, on n'est pas braqué uniquement sur l'apparence extérieure. On va chercher au-delà, n'est-ce pas, de l'apparence extérieure. Au-delà, pas au travers, plus profond de ce que tu vois à l'œil nu. C'est là où tu pourras petit à petit ressentir la présence divine d'Hachem dans le monde. Alors pour ne pas que ça reste trop abstrait, on va un peu concrétiser ces notions. On va donner quelques exemples, pas qui sont simples et bien connus, de la science. Fait de nos jours, pas tout le monde sait que la matière, la structure de la matière, ben, eh bien c'est quoi de façon grosso modo? Ben, c'est des milliards d'atomes, de molécules, ben, atomes qui sont constitués par de noyaux, d'électrons, etc., qui tournent constamment avec une vitesse vertigineuse. Et en fait, n'est-ce pas, en fait, il y a un plus grand espace entre le noyau et les électrons, l'espace qui existe est plus grand, plus important que la matière propre du noyau et des électrons, pas que si bien que si tout s'arrêtait de tourner, eh bien la matière serait infiniment petite. On dit par exemple, on arrive à la conclusion que la tour Eiffel, par exemple, eh bien la matière propre des noyaux, électrons, etc., toutes les molécules qui tournent là-bas, elle n'est pas plus grande qu'une balle de tennis. Un être humain, ce n'est pas plus grand, n'est-ce pas, qu'un grain de sable. Sa matière propre est réelle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces milliards, n'est-ce pas, d'atomes tournent et sont accrochés, tournent dans tous les sens, pas comme un ventilateur, que bon que tu vois, n'est-ce pas, les hélices et qui remplissent l'espace qui est vide. Et donc, on a l'impression d'avoir une table, enfin, on a une table réellement, mais en fait, la matière propre de cette table, elle est réellement comme un grain de sable. Donc, c'est un exemple pas pour nous dire que ce que tu vois, c'est pas ce que c'est réellement. C'est-à-dire que tu vois une table, bon, c'est vrai qu'il y a une table, pas, elle est, oui, pas, elle est ce qu'elle est, la table, pas, elle est solide, etc. Mais cependant, n'est-ce pas, la matière propre, c'est différent, c'est infiniment plus petit. Hachem a créé le monde de façon, ce que tu vois, eh bien, c'est différent de ce que c'est réellement. Pour nous dire, attention, tu vois un homme, tu vois quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a sa neshama. Il ne faut pas se fier uniquement à l'apparence extérieure, il ne faut pas se fier uniquement à son apparence physique, qui a elle aussi, c'est vrai, une petite importance, mais il faut se rappeler que le plus important, c'est son âme, c'est ses qualités de cœur, c'est ses valeurs morales, spirituelles, ses capacités intellectuelles, etc. Le côté intérieur de l'être humain. Même dans une table, n'est-ce pas, on voit il y a quelque chose qui est au-delà de ce qui apparaît, c'est les molécules, les atomes, etc. Autre exemple, les scientifiques démontrent que l'œil ne voit pas exactement ce qui est en face de lui. L'œil, lorsqu'il voit un élément, une image, eh bien, il la photographie de façon inversée. Et c'est le cerveau humain, par son intelligence, qui va de nouveau inverser cette image dans l'esprit. Pourquoi Hachem a créé le monde de cette façon? Là encore une fois, pour te dire, attention, ne te fie pas à ce que tu vois. Ce que tu vois, pas l'image, eh bien, ton œil, il le photographie de façon inversée. Des fois, ce que tu vois, c'est exactement l'inverse. Pour un autre exemple, pendant des millénaires, des milliards d'êtres humains sur la planète étaient sûrs et certains persuadés que le Soleil tournait autour de la Terre. On a démontré, il y a quelques centaines d'années, que c'est le contraire, que la Terre qui tourne. Entre parenthèses, c'est déjà écrit dans les Tosfot, dans le Zohar Kadosh, il y a 2000 ans, dans le Radak, dans le prophète Yeshaya, chapitre 40, c'est déjà écrit. On était aussi sûr et certain que la Terre était plate. On a découvert et démontré que la Terre est ronde. Et les gens, pas les milliards de personnes, n'étaient pas plus bêtes que nous. Bon, évidemment, ils n'avaient pas toute la technologie, tous les moyens de prouver, etc. Bon. Pour nous dire qu'on peut, n'est-ce pas, se tromper pendant des millénaires et des erreurs qui sont peut-être gigantesques, des milliards de personnes. On ne peut pas se fier à ce qu'on voit. On ne peut pas se fier. Il ne faut toujours pas chercher au-delà des événements. Au-delà de ce que tu vois, tu ne peux pas te fier à lui parce que c'est très trompeur. C'est ce qu'a dit, n'est-ce pas, ce Hacham, Arabi et Rabbi Chia. C'est que quelqu'un qui a bien compris cela, bien compris que la vision, l'apparence peut te tromper. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Un homme qui est aveugle, il a un grand avantage. On apprécie aussi cet avantage qu'il a parce qu'on cherche toujours le côté intérieur. Grâce à cela, on peut se rapprocher d'Hachem, se rapprocher de la Neshama. Pourquoi ? Parce que la Neshama, même si on ne la voit pas, on peut s'approcher d'elle parce qu'on ne se fie pas uniquement à ce qu'on voit. Alors, dans ce même ordre d'idée, enfin une petite parenthèse, c'est raconté dans le livre Magid Mesharim du Beit Yosef. Pensez que le Beit Yosef avait un Magid qui, tous les soirs, presque tous les soirs, venait lui dévoiler des secrets de la Torah. Et un beau soir, le Maguid est apparu et lui a dit au Beit Yosef, je vais apprendre ce soir te dévoiler quelle est la Shoresh Neshama, la base de l'âme de ton épouse. Bien que tu la respectes et que tu l'honores comme il faut, mais quand tu sauras, n'est-ce pas, de quelle femme s'agit-il, de quelle âme si divine, spirituelle, si élevée à ton épouse, eh bien tu vas la respecter, l'honorer encore plus. Il lui doit dévoiler, n'est-ce pas, de quel âme s'il pense, c'est des notions kabbalistiques qu'on ne connaît pas. Top. Ça, c'est l'histoire du Beit Yosef, du Maguid. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. On n'a pas de Maguid, on n'a pas d'ange qui nous dévoile des secrets. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cela? C'est que bien souvent, pas un homme passe des dizaines d'années, une centaine d'années de sa vie, en côtoyant des amis, des camarades, des voisins, de la famille. Top. Et il ne sait pas qu'il a affaire. Pourquoi? Parce qu'il identifie tout ce qu'il voit uniquement par rapport à l'apparence physique extérieure. Et oublie qu'il y a une neshama, une âme qui est divine. Et qu'est-ce qui peut arriver? Lorsqu'un homme arrive au monde futur, là on va lui dévoiler quel était, n'est-ce pas, réellement le shoresh, la base de l'âme de son épouse, de son mari, des enfants, des parents, des voisins, etc. Et là l'homme va déclarer, va s'exclamer, va dire... Si j'avais su que j'avais affaire avec une telle neshama, eh bien, je l'aurais plus respecté, plus honoré, je me serais conduit de façon différente. Mais c'est trop tard. Quand on arrive au monde futur, c'est trop tard. Quel est le problème? C'est qu'on s'identifie uniquement selon l'apparence externe, on oublie qu'il y a une neshama. Bien plus que cela. Pour revenir encore au sujet d'hier, c'est que on va nous dévoiler au monde futur, non seulement avec quel neshama tu vas faire, mais on va te dévoiler quelle était ta propre neshama. Quelle était la valeur spirituelle, divine, réelle de ta neshama, de ton âme. On va aussi te montrer, te dévoiler quelles étaient tes capacités morales, intellectuelles, spirituelles. Et là aussi, un homme va être étonné et déclaré et dire « Si j'avais su, si je savais, n'est-ce pas, que j'avais une telle force, une telle capacité, eh bien, je me serais beaucoup plus investi, j'aurais fait beaucoup plus d'efforts, j'aurais beaucoup plus aspiré, etc. » Ça a dit une fois le Rav Char. Quel est le plus grand drame qui peut arriver à quelqu'un dans sa vie? Elle dit, imaginez quelqu'un, un homme, qui vit dans la misère, une pauvreté, total, terrible, toute sa vie. À l'âge de 98 ans, lorsqu'il est agonisant, eh bien on toque à la porte et quelques personnes arrivent. Ah, monsieur un tel, enfin, on vous a trouvé. Ça fait plus de 50 ans qu'on vous cherche. Parce qu'en effet, pas, il y a un tel parent qui est décédé dans votre famille, un homme milliardaire, et il a laissé un héritage. Vous êtes la seule personne qui peut l'hériter. Voilà, n'est-ce pas, l'héritage. Et on lui confie quelques milliards. Enfin, cet homme-là, qui doit mourir dans quelques jours, quelques semaines, eh bien, on peut être sûr et certain que s'il a vécu sa vie, n'est-ce pas, dans la misère, eh bien, il va souffrir ces quelques derniers jours de sa vie bien plus que toute sa vie. Sachant qu'il était milliardaire pendant 50 ans sans le savoir et avec de la misère. C'est un mashal. Quel est le nimshal? C'est que quelqu'un peut passer une vie entière sans savoir qu'il a, n'est-ce pas, des capacités spirituelles, morales, intellectuelles, extraordinaires, gigantesques. Pourquoi? Parce qu'il a affaire toute sa vie. À quoi? À boire son café, à passer des vacances, à faire des excursions, à dormir, à faire des blagues, etc. Il passe pas toute sa vie à des loisirs. Chacun a ses loisirs personnels. Et à la fin de sa vie, c'est là où on lui découvre, on va lui montrer, lui démontrer, lui expliquer, lui montrer quelles étaient ses capacités spirituelles, morales, intellectuelles, et à quel niveau, à quelle envergure de personnalité il aurait pu arriver. S'il s'était investi, s'il n'avait pas perdu son temps pour des bêtises, et là c'est trop tard. C'est trop tard. Ce qu'on a dit apparemment, c'est que, on va pas, c'est dit dans le Nefesh Chaim, Magid le Adam Masecho, c'est qu'Hachem aussi dévoile au monde futur, Masecho Afilu Sihakala, on va te montrer, t'expliquer quelle est l'importance d'une parole, d'une phrase légère que tu as prononcée. L'homme prononce une parole et ne se rend pas compte de ce que c'est. Le verset nous dit, Le verset dit que Hachem, le vent peut déraciner des montagnes, et Hachem montre à l'homme, lui explique quelle est la valeur de la parole. Quel rapport entre eux, le fait qu'un ouragan peut déraciner une montagne, quel rapport? C'est la même chose. La parole, c'est quoi? C'est du vent. Pas c'est du vent, c'est de l'air. Alors, je ne donne aucune importance. Le vent, l'ouragan aussi, c'est que de l'air, c'est du vent. Mais quand il vient, n'est-ce pas, lorsqu'il est tellement, une telle puissance, il peut pas déraciner des monticules et des arbres. Par aussi. La parole de l'homme, elle peut construire et détruire des mondes entiers.
Forte raison. Si déjà dans la nature, alors un vent, il déracine des arbres, alors c'est l'homme qui est sommé de la création, alors à plus forte raison que...
Non, on émette. Voilà.
Cette parole, elle a un
temps. Pour de quoi la chaleur?
Dans tous les domaines. Bon, je ne vais pas rentrer, c'est un autre sujet. Pas trop. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire pas qu'un être humain doit savoir qu'on lui a confié une vie, une neshama, que dosha qui est élevée, qui est divine. Une neshama, une âme. On est tous conscients qu'on a une âme. Même sans la connaître, mais on sait qu'une âme, elle est spirituelle, elle est au-delà de tout ce qui est matériel. Alors, il est vrai, n'est-ce pas, qu'il y a une harmonie extraordinaire entre le corps et l'âme. Mais ce qui est important, c'est de faire rejaillir les forces de l'âme qui sont cachées et enfouies parce que, n'est-ce pas, cette âme encastrée est bloquée dans le corps humain. Et lorsqu'un homme, petit à petit, arrive à découvrir les forces de son âme, automatiquement, il s'épanouit. Il s'épanouit dans plusieurs domaines. Ça démarre par l'intellect. Pas quelqu'un qui vit toute sa vie dans une jungle, une forêt. Il est évident qu'il aura plus de difficultés à mettre en relief les qualités, les facultés de sa neshama. Pourquoi? Parce que même son intellect, il est à un niveau très bas. Lorsqu'un homme, n'est-ce pas, s'intéresse à tout ce qui est connaissance, intellectuelle, intelligence, automatiquement, il peut petit à petit arriver à un neshama. Mais avec condition d'avoir comme principe de ne pas se fier aux apparences. De ne pas se fier uniquement à l'apparence extérieure. Lorsque tu vois quelqu'un, pas. Lorsque tu te vois, il ne faut pas s'identifier. Il ne faut pas identifier autrui uniquement à son corps, à son physique. Mais surtout, essentiellement, à son esprit, à ses valeurs morales, à son côté spirituel. Même si on ne le sent pas, même si on ne le connaît pas encore, le fait de savoir qu'une personne possède en soi pas des qualités morales, intellectuelle et surtout, n'est-ce pas, une âme qui est spirituelle, automatiquement, ça peut et ça doit nous donner une approche tout à fait différente à la société et surtout une approche différente à soi. Lorsqu'un homme aborde, pas le monde entier, c'est le monde entier, avec une conception, pas une conception de prime abord qui est spirituelle, c'est-à-dire essayer pas de changer de paire de lunettes et de voir le monde avec une vision spirituelle. Par exemple, pas amener un grand chimiste, un grand physicien à côté de certains éléments. Pas, il pourra bien plus rapidement savoir, se rappeler qu'il y a ici des atomes et des molécules bien plus que quelqu'un qui n'a jamais entendu. Pourquoi? Parce qu'il est à là. Pas aussi lorsque tu as fait avec la Neshama, lorsque tu cherches dans chaque personne, dans chaque élément, dans chaque dimension, le côté spirituel, automatiquement on s'habitue à connaître, à ressentir la Neshama. Et le monde prend des proportions tout à fait différentes. Et de cette façon, on peut aussi petit à petit réussir à découvrir des forces qui sont extraordinaires et inouïes en soi. Mais de cela, on parlera peut-être la prochaine fois.